France Culture. France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Ce matin, la guerre continue en Ukraine. Vladimir Poutine joue la montre face à la proposition de trêve malgré l'insistance de Donald Trump. Il exige que soit réglé ce qu'il appelle les causes profondes du conflit, en clair le statut, sinon l'indépendance même de l'Ukraine, tout comme les équilibres régionaux établis sur notre continent depuis la fin de l'Empire soviétique. Quelle que soit maintenant la riposte de la Maison-Blanche, l'Europe n'a plus d'autre choix que de repenser et de reconstruire ses capacités de défense. Les reproches faits aux Européens en la matière sont toujours les mêmes. Trop de discours, on bombe le torse, on n'est pas d'accord, rien n'avance. Ou pire, le complot fédéraliste serait en marche. Cette fois, ces procès sonnent faux. La convergence des analyses entre la plupart des membres de l'Union européenne et le Royaume-Uni, la conversion du prochain chancelier d'Allemagne à la vision française d'autonomie stratégique, la coordination entre Londres et Paris pour imposer l'implication des Européens dans un éventuel accord de paix, voilà autant de signaux d'une détermination nouvelle, autant de facteurs d'une accélération de différents processus. Encore faut-il les distinguer et chacun offre bien sûr son lot de difficultés. Au niveau national d'abord, la défense ne fait pas partie des compétences communes de l'Union. C'est à chaque pays de déterminer l'ampleur et la nature des efforts à entreprendre, même si la Commission met en place des facilités budgétaires et doit annoncer des propositions de financement complémentaires. Jusqu'où serait-il donc possible de faire converger les exercices nationaux de programmation militaire? Comment arbitrer les commandes de matériel entre préférences européennes et dépendances traditionnelles aux industries américaines? Il en sera question dès jeudi prochain, lors du prochain sommet européen. L'autre dimension est évidemment celle de l'OTAN. 24 des 27 pays de l'Union sont membres de l'organisation de l'Alliance Atlantique. Comment renforcer le rôle des Européens au sein d'un dispositif que Washington menace périodiquement d'affaiblir? C'est enfin au niveau de la dissuasion nucléaire qu'une approche nouvelle se dessine face aux demandes de l'Allemagne et de la Pologne. La France serait-elle en mesure d'élargir sa protection? Le Royaume-Uni, l'autre puissance nucléaire européenne, pourrait-il y être associé? C'est ce que nous allons comprendre ce matin grâce à vous, Claudia Mayor. Vous êtes à Berlin. Merci d'être avec nous. Vous êtes, à partir d'aujourd'hui, la senior vice-présidente pour la sécurité transatlantique et membre de l'équipe de direction du German Marshall Fund. Amélie Zima, vous êtes docteur en sciences politiques, chercheuse, responsable du programme Sécurité européenne et transatlantique au Centre des études de sécurité de l'IFRI. Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique et conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne. Et j'accueille aussi avec plaisir Benjamin Haute-Couverture, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, senior fellow au Canadian Global Affairs Institute à Ottawa. Bruno Tertrais, aujourd'hui même à Londres, le Premier ministre britannique réunit en session virtuelle une quinzaine de pays volontaires pour continuer à soutenir l'Ukraine. Et on a vu tout au long de ces derniers jours, à Paris, mardi, réunion des chefs d'état-major de 34 pays volontaires. Mercredi, réunion des ministres de la Défense des principales puissances militaires européennes. Hier, réunion des industriels de la Défense autour du président de la République. Cette accélération de réunions, de concertations, est-ce que cela veut dire qu'on passe à l'acte ?
Oui, ça veut dire que quelque chose a changé et que Trump a véritablement déclenché cette fois un phénomène de prise de conscience qui va se traduire dans des décisions concrètes pour que l'Europe prenne davantage de responsabilités, d'abord vis-à-vis de l'Ukraine et ensuite pour pouvoir se défendre, un jour peut-être sans les États-Unis si nécessaire. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une très bonne coordination franco-britannique. Les deux principaux leaders de la défense en Europe, même si l'Allemagne et la Pologne de plus en plus sont des acteurs incontournables. C'est dû au fait que Keir Starmer et Emmanuel Macron ont une bonne relation personnelle. C'est important dans ce moment critique pour la sécurité européenne. Et donc, il y a ces réunions successives qui ont des agendas, qui ne sont pas du tout en concurrence. Hein. Il n'y a pas de concurrence franco-britannique et il y a une très bonne coordination. Tout ne peut pas se faire à Paris, évidemment. Il est normal qu'une partie de ces réunions se fasse à Londres. Encore une fois, avec deux agendas différents, mais qui se recoupent. Comment fait-on pour prendre le relais en partie des États-Unis si ceux-ci font défaut sur l'Ukraine, ce qui n'est pas ou pas encore le cas aujourd'hui, et ensuite comment activer véritablement pour le moyen et long terme les politiques de défense, les industries de défense, pour faire un saut qualitatif dans ce domaine d'ici quelques années.
Et c'est d'abord, Bruno, au niveau national, évidemment, que chaque pays enclenche ou pas un certain nombre de politiques nouvelles.
Oui, et pour la France, le discours d'Emmanuel, enfin l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron de la semaine dernière a donné le ton. Macron a voulu mobiliser au sens intellectuel la nation pour faire comprendre que nous n'avions guère le choix. En tout cas, nous n'avons pas véritablement d'autres possibilités réalistes que d'accélérer encore notre effort de défense. Il y aura des décisions nationales, bien sûr, parce que c'est d'abord et avant tout au niveau national que la défense se fait. Personne ne parle de transférer je ne sais quel pouvoir à l'Union européenne. Toute la difficulté pour la France, ça sera de réconcilier ce leadership de fait ou ce co-leadership de fait avec la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Pologne l'accélération de cet effort de défense avec les contraintes qui nous sont propres et notamment la contrainte budgétaire et financière dans un cadre qui est déjà contraint puisqu'Emmanuel Macron a annoncé qu'il n'y aura pas d'impôts, de nouveaux impôts pour la défense. Donc il y a certainement de l'épargne à mobiliser. L'Union européenne va jouer son rôle, on en parlera, mais c'est vrai que la France, elle est à la fois l'un des grands leaders politiques de cet effort, mais l'un des pays aussi qui est potentiellement le plus contraint pour un effort budgétaire massif dans le domaine de la défense.
Claudia Mayor, on vous rejoint à Berlin, et c'est véritablement à Berlin que le prochain chancelier, Friedrich Merz, a enclenché véritablement une révolution copernicienne. Il a réussi donc à s'allier aux sociaux-démocrates pour former le prochain gouvernement. Il a obtenu l'accord des Verts pour que son projet de loi passe en principe mardi prochain au Bundestag. Expliquez-nous comment et pourquoi Friedrich Merz est parvenu à cette conclusion qu'il fallait que l'Allemagne change complètement à la fois de posture et d'engagement pour reconstruire une défense à la hauteur des enjeux.
Effectivement, les décisions qu'on voit en ce moment à Berlin sont impressionnantes. Friedrich Merz, le futur chancelier, a dit hier « l'Allemagne est de retour ». Il a dit ça comme une sorte de leitmotiv aussi bien pour les alliés et les partenaires en Europe, mais aussi pour les adversaires dans le monde, pour montrer l'Allemagne est capable de prendre des décisions d'une très grande scope, si le nécessaire. Et les décisions qu'il a annoncées, qui ne sont pas encore prises, qui seront votées la semaine prochaine, c'est encore un peu... Il reste un peu de suspense parce qu'il y a quelques députés... Enfin, le Parlement allemand, l'ancien Parlement, va voter ces décisions. Il restera en place jusqu'à fin mars. Donc, il y aura aussi les députés qui ne sont pas réélus et on ne sait jamais comment ils voteront. Donc, c'est pour ça qu'il reste un peu des questions, mais il paraît que c'est assez sûr et on aura trois décisions clés. La première décision clé, c'est que le frein à la dette sera assoupli pour les dépenses de la défense. Donc, on exclut du calcul du déficit public toutes les dépenses de défense supérieures à 1% du PIB. 1% du PIB, à peu près, ce sont 44 milliards en ce moment. Et ça sent un peu... ça sent normal pour l'Allemagne et c'est un très grand pas parce que afin d'assouplir le frein à la dette, il faut changer la Constitution. Donc c'est vraiment un énorme pas. Et ça veut dire quoi pour la défense ? Ça veut dire tout ce qui va au-delà de 1% du PIB, ça sera là, ça sera mis à la défense. Donc c'est un peu en anglais, on dirait open bar. Donc il n'y aura plus de plafond. Ce qui sera nécessaire sera investi dans la défense. Donc la première décision, assouplir le frein à la dette pour toutes les dépenses de la défense qui vont au-delà de 1% du PIB. La deuxième décision permet aux Länder, donc aux régions allemandes, de s'endetter, ce qui leur est interdit pour le moment. Et la troisième décision, qui est aussi impressionnante, qu'on va créer un fonds spécial de 5 milliards d'euros sur 10 ans pour des investissements supplémentaires dans les infrastructures. L'idée derrière, c'est de relancer l'économie en récession depuis 2 années consécutives et de moderniser en fait tout le pays. Parce que nos infrastructures sont vieillissantes, certains services publics sont sous-financés.
Donc, pardon, l'idée, Claudia, c'est vraiment il s'agit de bien remettre de 500 milliards
pour qu'elle soit compétitive dans l'avenir. Donc, ces décisions-là, ces trois décisions, vont permettre au nouveau gouvernement de vraiment de se positionner pour les défis transatlantiques, mondiaux, la Russie, tout ça. Et ça sera un bon début pour la prochaine coalition.
Alors, il s'agit bien de 500 milliards, on vous a bien compris. Mais c'est aussi, Claudia, véritablement un changement existentiel de l'Allemagne par rapport aux États-Unis d'Amérique.
Oui, mais le débat est très différent du débat français. Soit vous, soit Bruno Tertrais, vous avez dit que l'Allemagne a rejoint la France dans la définition de la nécessité de la souveraineté européenne, de l'autonomie stratégique. On n'y est pas vraiment là. Il faut comprendre que pour l'Allemagne, ce changement des États-Unis est vraiment une question existentielle. L'Allemagne a basé sa politique extérieure toujours sur deux piliers. L'Europe, avec l'Union européenne et la France, et le transatlantique, avec les États-Unis et l'OTAN. Donc, il y a vraiment un pilier pour l'Allemagne qui disparaît, et en plus, les États-Unis qui ont permis à l'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, d'être réhabilitée, de revenir dans la famille des États respectés. Donc, pour les Allemands, c'est pas seulement un allié qui part. C'est le grand frère, c'est le père de famille, c'est l'allié, c'est une partie de l'Allemagne qui part. Donc pour l'Allemagne, la perspective, ce n'est pas de dire « bon, ils partent, ben on fait l'Europe ». On parle ici plutôt de plan de transition, d'adaptation. Donc on essaye de voir ce qu'on peut sauvegarder avec les États-Unis, surtout dans le domaine de la défense, parce qu'on se sent incapable en ce moment d'assurer la dissuasion et la défense sans les États-Unis. Donc de préparer une sorte de plan de transition où on dit « on a compris, chers Américains, vous ne voulez plus rester, comment on peut organiser cette transition ?» Parce qu'on a des lacunes dans le leadership politique, on a des lacunes, des problèmes dans les capacités, par exemple dans les frappes, dans la profondeur, dans la défense aérienne et tout ça. Et on a aussi des dépendances industrielles qui vont très loin. Donc pour nous, la question à Berlin, c'est plutôt comment organiser cette transition vers une souveraineté européenne accrue. Mais on ne peut pas switcher d'un jour à l'autre parce qu'on se sent dépendant et on pense aussi qu'on sera toujours plus fort avec un allié comme les États-Unis.
Amélie Zima, la Pologne est l'autre pays d'Europe qui a accru spectaculairement ses moyens militaires au cours des dernières années. Ils atteignent maintenant, je crois, 4,7% du PIB. Et ce qui est intéressant, dans un pays qui est en campagne électorale, puisqu'il y a une élection présidentielle en mai prochain, cette politique-là fait consensus.
Oui, exactement. Il y a vraiment un consensus très large sur les questions de défense, sur la nature de la menace, qui est la menace russe. On en veut pour preuve que la loi qui a complètement rebattu les cartes dans le domaine de la défense, qui est la loi de la défense de la nation, elle a été votée à une quasi-unanimité avec juste 5 abstentions. Donc c'est absolument incroyable. Ce consensus ne doit pas cacher le fait qu'il y a quand même un véritable débat parlementaire, ce qui témoigne quand même d'une bonne vitalité démocratique. C'est sain quand même que ces discussions soient que ces domaines soient discutés en commission. Et donc en Pologne, donc cette loi sur la défense de la nation, elle est votée très peu de semaines après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. C'est des travaux qui sont assez rapides et elle prévoit donc 3% du PIB dans la défense, plus un fonds spécial de défense extra-budgétaire et une armée qui monterait à 250 000 hommes. Ça se caractérise donc par des programmes massifs d'achats dans des volumes quasi inédits depuis la fin de la guerre froide, des achats principalement américains, coréens, mais aussi britanniques. Donc on parle de plus de 1000 chars, de plus de 500 lance-roquettes multiples, de centaines d'hélicoptères de combat. Mais ce programme de réarmement, il ne vient pas seul. C'est quand même un projet global qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire qu'on a aussi, à côté du réarmement, le projet du bouclier Est. Le bouclier Est, c'est la fortification de la frontière orientale de la Pologne avec des champs de mines, avec des barbelés, des dents de dragon, des hérissons pour rendre vraiment la frontière infranchissable. Et c'est aussi, ça va de pair avec des programmes de formation aux questions de défense qui vont de quelques heures à un an. À un an pour le programme dit du service militaire volontaire. Partenariat aussi entre les écoles les armées pour former aussi les écoliers aux questions de défense, à la défense passive. Et donc, en fait, on a un programme vraiment complexe sur les questions de défense qui ne se limite pas aux achats massifs. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a récemment eu un discours du Premier ministre Tusk devant l'Assemblée nationale polonaise, où là, on a encore revu les objectifs à la hausse. Et donc, Donald Tusk a parlé d'une armée à 500 000 hommes, en comptant les réservistes. Il a parlé de 5% du PIB. Alors ça, c'est possible parce qu'on a une croissance qui reste soutenue en Pologne. Les prévisions jusqu'à 2028, c'est plus de 3%. Et il a parlé aussi de quelque chose qui est tout à fait aussi intéressant et que je pense qu'il faut noter, c'est de sortir des conventions d'Ottawa et de Dublin. Donc c'est des conventions internationales qui restreignent l'usage des mines antipersonnelles et des armes à sous-munitions. Et donc on voit qu'on a, avec le programme aussi de réarmement polonais, un affaiblissement des régimes internationaux de régulation de la violence, puisque Donald Tusk a aussi dit qu'il fallait explorer les possibilités offertes par le nucléaire, certes, mais aussi par les armes non conventionnelles. Et donc là, est-ce que ça peut être, il n'a pas spécifié, mais est-ce que c'est le chimique, le bactériologique, le radiologique? Donc là aussi encore peut-être un affaiblissement des régimes internationaux de régulation de la violence. Et enfin, ce qui a été annoncé aussi, c'est une éducation militaire pour tous les hommes majeurs. Et donc on ne réinstaure pas formellement le service militaire, mais tous les hommes majeurs d'ici la fin de l'année auront un programme de formation donc aux questions militaires.
En même temps, Amélie, on sait que la Pologne ne participerait pas ou refuserait de participer en cas non seulement de trêve dans la guerre en Ukraine, mais d'un cessez-le-feu où les Européens auraient un rôle de surveillance. Les Polonais ne veulent pas en faire partie.
Oui, ils ne veulent pas envoyer de troupes sur le sol ukrainien. Alors à cela, il y a deux raisons. La raison qui est donnée notamment lors de son dernier exposé devant l'Assemblée nationale par le Premier ministre Tusk, c'est de dire que nous, on tient en fait la ligne de front. La Pologne tient la ligne de front, qui peut être vers Kaliningrad, qui peut être vers la Biélorussie. Donc il y a besoin d'un État qui surveille en fait les arrières et la Pologne se donne ce rôle. Mais il y a aussi un autre problème qui est lié à l'histoire douloureuse entre l'Ukraine et la Pologne, à ce qu'on appelle les massacres de Volhynie qui ont eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale. dans le spectre politique polonais, on parle soit de massacre, soit de génocide. Et en fait, c'est dans la région de Volhynie, qui est dans le nord-est de l'Ukraine, à l'époque le sud-ouest de la Pologne, eh bien, il y a eu en fait un massacre des populations polonaises, civiles, hommes, femmes et enfants, par les nationalistes ukrainiens. Il y a des lois qui ont été passées au milieu des années 2010 et qui excusent toutes ces actions-là, en disant que toutes ces actions entreprises durant la Seconde Guerre mondiale, dont les massacres de Volhynie, se justifient parce qu'elles visaient à l'indépendance de l'Ukraine. Et c'est une très forte pomme de discorde dans les relations polono-ukrainiennes, très forte pomme de discorde qui donc explique que les Polonais ne veulent pas nécessairement s'engager sur le sol ukrainien, à savoir aussi, je terminerai là-dessus, que il y a énormément de réfugiés ukrainiens en Pologne, hein, il y en a eu plus d'un million, et que le soutien des Polonais à l'accueil des réfugiés faiblit parce que ça fait une pression évidemment sur les services sociaux, mais que on entend des discours maintenant disant que les Ukrainiens, en fait, c'est pas vraiment notre culture, que les Ukrainiens viennent se réfugier en Pologne à l'aide d'aller combattre, alors que la Pologne fait énormément pour l'Ukraine. Donc il y a un sentiment en fait qui monte en Pologne et qui n'est plus aussi favorable aussi à l'Ukraine qu'au début du conflit. C'est sans doute aussi une lassitude parce qu'on est quand même maintenant à 3 ans en fait, à 3 ans depuis le début du conflit.
Bien sûr, Claudia Mayor, est-ce que la même lassitude s'exprime dans l'opinion publique allemande au moment où, comme vous nous l'avez expliqué, le pays s'apprête à réinvestir massivement dans sa propre défense?
Quand on regarde les sondages des derniers 3 ans, il y avait toujours une majorité pour le soutien pour l'Ukraine. Donc pour moi, c'est surtout une question du leadership politique. Donc est-ce que le gouvernement, est-ce que le chancelier fait un effort pour vraiment convaincre le public que ce n'est pas seulement une question de l'Ukraine, mais une question de la sécurité et de la défense en Europe. Donc je pense, là, avec le changement du gouvernement, il y a une possibilité à ce que le soutien public soit beaucoup plus fort, ou que le gouvernement essaie de le réveiller beaucoup plus fort. J'ajouterais un petit, si je peux, un petit commentaire à la Pologne. Il y a aussi des élections au mois de mai en Pologne.
Oui.
Pour le gouvernement, c'est clair que s'ils arrivent à avoir le président de leur côté, il pourra enfin vraiment mettre en œuvre leur programme. Donc ce que j'entends très souvent de la part de mes collègues polonais, c'est qu'il faut attendre peut-être les élections présidentielles pour que la position polonaise devienne un peu plus souple. Mais derrière, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec ce que Amélie avait dit. Il y a la question entre la sécurité nationale et la sécurité de l'Europe. Et pour beaucoup de pays, la question, est-ce que je mets en risque ma sécurité nationale pour défendre la sécurité européenne en Ukraine ? Elle est facile à répondre. Donc on voit cette hésitation dans beaucoup de pays en Europe qui disent, on comprend qu'il faut assurer un peut-être cessez-le-feu en Ukraine, mais est-ce que je suis prêt à mettre en danger ma propre sécurité nationale pour soutenir l'Ukraine? Il y a des doutes. Donc je crois cette tension, elle est perceptible dans quasiment tous les pays en Europe quand on parle de la question de la nécessité d'assurer, de surveiller un cessez-le-feu en Ukraine.
Claudia, la Commission européenne doit annoncer la semaine prochaine de nouvelles propositions pour compléter le plan de réarmement de l'Europe annoncé par Madame von der Leyen il y a quelques jours. Est-ce que, selon vous, le prochain gouvernement allemand serait davantage ouvert à un nouvel emprunt commun au niveau de l'Union européenne, semblable à celui qui avait été mis en place au moment du Covid? Est-ce qu'on peut aussi imaginer au niveau allemand que des fonds privés s'associent à la reconstruction des industries de défense européennes? Quel est, à votre avis, l'état d'esprit?
Je vous dis très, très honnêtement, c'est difficile à dire. Tout le monde savait à Berlin qu'il fallait assouplir le frein à la dette. mais il y a très peu de gens qui s'attendaient à un fonds spécial de 500 milliards d'euros. Je dis ça seulement pour montrer qu'en ce moment, il est très difficile de prédire ce que le gouvernement fera. Parce que là, avec les 500 milliards, c'est vraiment un changement de cap. Et assouplir le frein de dette, donc changer la constitution en Allemagne, c'est quelque chose qu'on ne fait pas facilement et qui demande beaucoup de réflexion. Donc là, on a eu deux décisions impressionnantes. Donc peut-être il y en aura d'autres. Je trouve ça très, très difficile à dire. Il y a un grand débat. Comment on peut mieux utiliser les fonds privés. On l'a vu aussi à la conférence de sécurité de Munich, c'était un des sujets clés. Comment financer la défense? Comment, en fait, dire aux investisseurs privés que c'est un investissement qui est intéressant? Donc, je pense qu'il y aura des décisions, mais j'ai vraiment du mal à prédire s'il y aura des Eurobonds, comment on va faire. Mais je crois un des éléments clés qu'il faut toujours reconnaître, on ne peut pas, je dirais, externaliser la responsabilité pour la défense à l'Europe. L'Europe peut soutenir, l'Europe peut incentivize, on dit en anglais, elle peut, comment on dit ça en français ?
Stimuler.
L'Europe peut offrir des, peut faire des investissements plus attractifs, mais à la fin, ça revient à chaque pays de faire des décisions au niveau national. On l'a vu en Pologne, on a vu en Allemagne. C'est ça, en fait, qui fait la grande différence. L'Europe ne peut pas remplacer un manque d'intérêt, un manque d'engagement au niveau national. Donc ça, il faut être très clair, l'Europe est un enabler, quelqu'un qui facilite, qui soutient, qui permet aux États qui ont du mal au niveau national de prendre des forces, mais il ne remplacera jamais l'investissement au niveau national. Il peut l'augmenter, amplifier, mais ça revient toujours aux États de faire le premier pas.
Alors, il y a précisément, entre l'Allemagne et la France, un différend qui n'est pas prêt d'être aplani. La France pousse pour une préférence européenne dans les achats d'équipements militaires, alors que l'on sait que depuis 4 ans, les 2/3 des dépenses d'armement engagées par les pays membres de l'Union, ce sont des importations venues des États-Unis. Est-ce que sur cette histoire de préférence européenne à laquelle Emmanuel Macron, sur laquelle Emmanuel Macron insiste, est-ce que vous voyez, Claudia, une sorte de compromis qui pourrait s'établir entre Berlin et Paris?
Je pense en fait que la France et l'Allemagne ne sont pas si loin que ça sur cette question-là. Parce que je crois que tout le monde comprend que la dimension industrielle est une dimension clé de la souveraineté européenne. Il faut avoir une autonomie politique, une autonomie capacitaire et aussi une autonomie industrielle. Mais elle ne vient pas overnight, elle ne vient pas d'un jour à l'autre. Donc, il y a des éléments d'équipement qui ne sont pas disponibles en Europe en ce moment. Je pense à l'hélicoptère de transport lourd que l'Allemagne a acheté aux États-Unis. Je pense je sais que c'est un sujet sensitif en France, mais le F-35, l'avion qui a la fonction nucléaire, donc qui permet à l'Allemagne et à tous les autres pays qui font partie du partage nucléaire au sein de l'OTAN, qui permet de jouer ce rôle-là, il n'y a pas d'équivalent en Europe. Donc il y a des éléments d'équipement qui n'existent pas en ce moment en Europe. Pourquoi la Pologne a-t-elle acheté en Corée ? Parce que c'était disponible très vite, plus rapidement que l'Europe aurait pu le produire. Donc je crois que la question, c'est pas noir et blanc, Europe ou États-Unis ou hors de l'Europe. La question, c'est ce qui existe en Europe, on l'achète en Europe. Ce qui n'existe pas encore en Europe, il faut construire les capacités. Et c'est ça, en fait, la question clé. En ce moment, l'industrie européenne n'est pas encore capable de fournir tous les produits que l'Europe a envie d'acheter. Donc, il faut augmenter les capacités de production. Il faut changer la logique. Les derniers 30 ans, on avait une industrie de défense à laquelle on a demandé de devenir plus petit et de se focusser sur des produits extrêmement sophistiqués. Maintenant, on est dans une logique complètement différent, au contraire, je dirais. On demande à l'industrie de grandir et de ne plus avoir les produits dernier cri sophistiqués, mais de produire en masse et rapidement. C'est complètement différent. Donc je crois la sagesse est dans la balance. Il faut acheter européen ce qu'on produit en Europe, mais le temps que l'industrie européenne s'agrandit, s'adapte, est capable de produire à une plus grande échelle, il faut encore acheter au niveau international. Et je crois qu'il faut trouver une bonne balance. Si on dit on prend que de l'Europe, que des produits européens, on risque de courir, on risque d'avoir des capability gaps. Donc on risque de prendre du retard dans l'équipement. Donc je crois qu'il faut avoir une stratégie à long terme où on met dans la bonne balance les deux approches.
Bruno Terrestre, est-ce qu'on peut, si on arrive à cette sorte d'équilibre avec les problèmes de délai et de capacité de fabrication, est-ce qu'on peut espérer une convergence des programmes nationaux, autrement dit une convergence dans les choix, d'autant que grandit, semble-t-il, la préoccupation liée au degré de contrôle que les entreprises d'armement américaines peuvent continuer à exercer sur les armes qu'ils nous vendent.
Oui, alors écoutez, je ne suis pas un spécialiste des matériels militaires, mais quelques points sur ce sujet. D'abord, je suis extrêmement sceptique sur l'idée selon laquelle, on a vu cela dans les commentaires depuis quelques jours, il suffit que quelqu'un au Pentagone appuie sur un bouton pour que les F-35 qui équipent de très nombreuses armées européennes soient immédiatement clouées au sol. Non, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que si vous vous équipez vos armées de l'air avec un chasseur-bombardier américain, vous êtes de fait dépendant à moyen et long terme de la bonne volonté des États-Unis de fournir la logistique, le renseignement, enfin tout un tas de choses qui vont autour pour vos opérations. Donc c'est quelque chose de plus complexe qui en a l'air. Deuxièmement, sur les fameux chiffres qui sont donnés en matière d'acquisition européenne. Attention, on confond souvent les chiffres en valeur et les chiffres en volume. Ce qui est certain, quel que soit le chiffre que l'on retient, c'est que de manière globale, l'Europe est très dépendante et va le rester pour longtemps des matériels américains. Nous ne pouvons pas, en quelques années, réduire cette dépendance au strict minimum. Je crois que, comme ça a été souligné tout à l'heure, l'enjeu véritablement pour les années qui viennent, je ne parle pas de ce qui se passera dans 15 ans, c'est de réduire au maximum cette dépendance aux États-Unis en achetant européen si possible et hors d'Europe, mais pas forcément aux États-Unis, si nécessaire. Mais il ne faut pas se bercer d'illusions. On ne pourra pas, en quelques années, réduire considérablement notre dépendance à l'Europe. Enfin, dernier point, notre dépendance aux États-Unis. Notre dépendance collective. Même la France a quelques programmes qui restent dépendants aux États-Unis parce qu'on ne peut pas tout produire à un coût acceptable sur le sol national. Dernier point, lorsqu'on parle de coopération européenne en matière d'armement, il faut bien voir que la coopération, ça a un coût. C'est très beau de dire, et je ne dis pas que c'est le discours de vos invités, mais c'est très beau de dire il faut rationaliser, partager la production, le travail. C'est extraordinairement difficile parce que d'abord, ça a un coût. Souvent, il y a un coût de la coopération européenne. Ensuite, parce que nous ne sommes pas un État fédéral intégré. On peut trouver ça très bien ou le regretter, mais c'est pas le sujet. Et dans tous les cas de figure, on ne peut pas avoir une Europe dans laquelle, eh bien, pour faire simple, les Allemands font les chars, les Français font les avions et les Italiens font les bateaux. Hein, ça ne se fera jamais comme cela. L'idée, c'est de progresser de manière incrémentale, et encore une fois, ce sont des chantiers extrêmement lourds, dans à la fois la réduction de notre dépendance collective à un grand État allié, les États-Unis, donc en diversifiant nos acquisitions, et d'aller un petit peu plus loin dans la coopération européenne. Et là, tous les grands pays, et les petits aussi, ont des égoïsmes nationaux et des barrières mentales à surmonter, mais on ne fera pas de révolution révolution dans ce domaine en 5 ans. C'est un chantier pour les 30 prochaines années et l'expérience des 30 dernières années montre que c'est extrêmement difficile et que ça ne va pas de soi, même avec la volonté politique qui existe aujourd'hui.
Benjamin, votre couverture, on ne vous a pas encore entendu. Venons-en avec vous à l'OTAN, évidemment, sinon menacée, en tout cas potentiellement affaiblie par l'administration Trump, qui ne cache pas à la fois son désintérêt et son impatience vis-à-vis des membres européens de l'OTAN. Il y a un pays au sein de l'OTAN dont on ne parle pas assez, me semble-t-il, qui est la Turquie. La Turquie, qui dispose de la plus grande flotte de F-16 après les États-Unis, qui a une industrie de défense qui est en pleine expansion, qui se dit prête à déployer des forces en Ukraine en cas de cessez-le-feu. Comment voyez-vous l'évolution même de l'organisation de l'Alliance Atlantique dans une telle conjoncture?
Ouais. Écoutez, la question de la Turquie, j'allais dire, rajoute une couche de complexité à un sujet qui l'est déjà assez. La première chose qu'on peut tous constater, c'est que la Turquie était présente dans un certain nombre de réunions, de rendez-vous qui se sont déroulés ces dernières semaines. Donc c'est déjà effectivement une bonne chose. Mais pour le moment, c'est effectivement un petit peu l'oublié de cette question au sein de l'OTAN, même si elle ne l'est pas en réalité. Mais c'est un sujet sur lequel on avance prudemment parce que le régime turc, les positions turc, le rapport de la Turquie à la Russie complique les choses. Donc pour le moment, disons-nous que la part de la Turquie dans ce qui serait une défense européenne augmentée doit faire partie, à l'évidence, des discussions sur le front oriental de notre défense collective dans ce qui va être entamé cette année et appelé de ses voeux par le président Macron, répercuté dans les capitales européennes. Mais pour le moment, je serai prudent sur ce sujet. Mais je veux faire un petit propos liminaire, succinct, si vous me le permettez. Ce que nous vivons en Europe, depuis maintenant quoi, un mois assez exactement, je crois, est assez précisément une catalyse. C'est-à-dire que l'introduction très brutale de la nouvelle politique étrangère et de sécurité américaine révèle en réalité, et ça c'est une bonne chose, l'état de préparation latente des mentalités européennes, selon un processus de 30 ans, et là, bon, je mets un petit peu de côté la Turquie, si vous voulez, selon un processus de 30 ans, commencé avec la possibilité d'une politique extérieure et de sécurité commune en 1992, qui est l'année même où François Mitterrand formula pour lui-même, comme président français, la dimension européenne de la dissuasion nucléaire française. Et la question spécifique de la dissuasion et de ce que notre dissuasion collective peut devenir dans les années à venir en est, à mon avis, très précisément l'illustration, que ce soit dans un cadre otanien ou que ce soit dans un cadre extra-otanien qui viendrait renforcer un cadre otanien. Parce que je vous rappelle que pour le moment, il n'est pas question de mettre en doute la dissuasion nucléaire dans le cadre de l'OTAN. C'est une extension de notre anxiété, mais ça ne correspond pas, qu'à Dieu ne plaise, et vraiment je crois ne pas me tromper, à une réalité sur le terrain. J'en veux pour preuve le fait que les nouvelles bombes à gravité B-61-12 ont été acheminées sur leur zone de déploiement par la NNSA américaine, c'est-à-dire dans les pays qui les reçoivent en Europe, en janvier, il y a 2 mois, alors que le président Trump prenait sa fonction. Selon moi, l'extension, si vous voulez, ou le renforcement de la dissuasion nucléaire en Europe, qui est appelée de leurs vœux, désormais en tout cas, hein, c'est formulé comme ça, par les Allemands, par les Polonais et également par certains États baltes, peut se traduire de nombreuses manières, dans le cadre des dispositifs existants de l'OTAN, ou bien de façon inédite, dans un ou dans des cadres à inventer qui viendraient compléter ce qui existe. Alors chacun peut y aller, je dirais d'ores et déjà, de son idée, parce que des idées bonnes, il y en a beaucoup, mais moi j'aborde la question de cette manière-là. Je pense que nous avons le temps de décliner le possible. Parce que ce qui est en train d'être ouvert à l'initiative de la France, c'est un processus. Ce processus va se décliner dans des groupes de travail thématiques. Il va en sortir des choses, mais il faut respecter une méthodologie. D'abord.
Oui, mais attendez, Benjamin, oui. J'aimerais préciser sur ce point précis, d'autant que vous avez à juste titre évoqué la proposition ou même la demande du prochain chancelier allemand à l'égard de Paris. Claudia Mayor, comment t'expliquer, vous m'avez corrigé à juste titre sûrement en disant il n'est pas question de rejoindre la vision macronienne de l'autonomie, d'une autonomie stratégique de l'Europe. Néanmoins, il est quand même saisissant que Friedrich Merz demande à la France d'envisager d'étendre à l'Allemagne sa protection nucléaire. Claudia.
Oui, je ne suis pas sûre ce qu'il a dit mot à mot, Friedrich Merz. Mais effectivement, je trouvais fascinant que Macron, dans son discours, le président Macron, dans son discours, il a fait référence au futur chancelier. Je crois que c'est dû, d'une part, aux questions qu'on se pose à Berlin et aussi à l'Europe, après le discours du président Macron à l'école de guerre en 2020, qu'il y a un débat, mais on ne sait pas vraiment ce qui est l'offre française. On sait ce qui n'est pas l'offre française. Pas de co-décision, pas de co-financement, pas de dissuasion élargie. Mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et même après le discours de la semaine dernière, on sait que maintenant le débat est ouvert, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, je pense, d'un point de vue allemand, il y a une grande volonté d'engager le débat, mais surtout de comprendre plus ce que la France propose. D'un point de vue allemand, il faut être très très clair qu'on pense que chaque changement dans l'ordre nucléaire mène à l'insécurité pour nous et aussi pour les adversaires, parce qu'on connaît le système actuel, tout changement crée une insécurité, une instabilité. Si ce n'est pas à éviter, si les États-Unis décident de changer leur rôle, certes, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas mis en question la dimension nucléaire, ils ne l'ont pas fait dans la première présidence, mais on sait aussi, d'un point de vue OTAN, le conventionnel et le nucléaire sont liés. Donc si les Américains décident de réduire leur conventional footprint, donc leur force conventionnelle en Europe, ça aura aussi une répercussion sur le nucléaire. Et rien que la mise en question politique qu'on voit tous les jours de la part de Washington met en question la dissuasion. Donc d'un point de vue allemand, on dit si on ne peut pas l'éviter, bien sûr, il faut engager le débat, l'échange avec la France. Donc il faut intensifier le débat avec la France. Mais d'un point de vue allemand, la France ne pourra pas remplacer la dissuasion américaine. Ça sera une dissuasion régionale, pas intercontinentale. La dissuasion française, comme nous on le voit de Berlin, elle est conçue dans le grand image, dans le grand bigger picture de l'OTAN, parce que il y avait la grande dissuasion en Europe. Et la question clé, finalement, c'est quoi qui dissuade, c'est quoi qui assure la dissuasion de la Russie? Oui. C'est quoi? On le sait.
Et c'est une question. On a une réponse spontanienne. Pardon, Claudia, je vous interromps parce que je voudrais demander à Amélie Zimard précisément comment et pourquoi la Pologne, à son tour, demande à la France d'envisager, là aussi, l'extension de son système de dissuasion nucléaire. Brièvement, Amélie, quelle est la position de la Pologne sur cette question ?
La position qui est plurale de la Pologne sur le nucléaire. D'une part, ils ont acheté des F-35 pour éventuellement être dans le partage nucléaire de l'OTAN, le F-35 ayant l'autre avantage d'être le seul avion furtif qui est produit actuellement. C'est pour ça que la Pologne fait ce choix aussi. Là, il y a une demande aussi du président polonais Duda de positionner des bombes nucléaires américaines sur le territoire polonais. Et ça, par contre, c'était pas nécessairement voulu par les Américains. J.D. Vance a fait savoir qu'il serait choqué si le président Trump acceptait. Et donc, du premier ministre Tusk, donc, puisqu'ils sont pas du même parti politique, évidemment, Duda et Tusk, il y a donc la possibilité, effectivement, de l'extension de la dissuasion française. Ça, c'est vraiment un sujet qui revient depuis quelques mois en Pologne. J'étais à Varsovie cet automne, notamment, et tous nos interlocuteurs nous posaient la question de cette extension de la dissuasion française. Et en fait, ça donnerait aussi, d'une certaine façon, de la substance à la question de l'autonomie stratégique, qui, jusqu'à présent, était quand même un peu vu à Varsovie comme une sorte de coquille vide. Et donc, cette extension de la dissuasion française, elle viendrait compléter, en fait, la dissuasion américaine. Et donc là, vraiment, on a une diversification de la position polonaise qui est intéressante parce que, clairement, Varsovie ne veut plus mettre tous ses œufs dans le panier américain. Alors, ça signifierait pas nécessairement que la France devrait stationner des missiles sur le sol polonais, mais la Pologne pourrait notamment agir en soutien. À savoir que le stationnement de missiles sur le territoire de ce qu'on appelle les nouveaux membres de l'OTAN, c'est-à-dire les pays qui sont rentrés après 99, les pays d'Europe centrale et orientale, ça serait une remise en cause d'un accord de partenariat qu'il y a entre l'OTAN et la Russie, qu'on appelle l'acte fondateur OTAN-Russie, qui a été signé en 97 et qui stipule clairement que sur le territoire de donc nouveaux membres, bon, ils sont nouveaux membres depuis 25 ans, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont toujours être nouveaux membres, mais arrêter d'être nouveaux membres, pardon. Mais ce texte stipulait clairement qu'il ne devait pas avoir de troupes, de missiles et d'infrastructures sur le territoire des nouveaux membres. Donc s'il y avait un pas comme ça qui était fait, ça serait une remise en cause de ce texte, qui n'est pas juridiquement contraignant, qui est une charte, mais ça serait vraiment un geste fort politiquement et militairement de l'Alliance vis-à-vis de la Russie.
Benjamin Haute-Couverture, je retourne vers vous. Le système français de dissuasion a déjà une profondeur de tir, sans remettre en cause, bien évidemment, ni la décision du président de la République, ni la chaîne de commandement, ni la théorie même de la dissuasion à la française. Notre dispositif pourrait déjà assurer un certain niveau de protection dissuasive par des capacités de ciblage.
Oui, pourquoi pas? On peut effectivement... Alors, il y a plusieurs choses, si vous voulez, parce qu'on peut affirmer ce genre de choses. On peut dire, d'ailleurs, tout ce qu'on veut. Mais après, il faut que ce soit crédible. Il faut que ce soit cru, en face. On peut parfaitement dire, parce qu'après tout, personne n'a tort ni n'a raison dans cette histoire, puisque ça n'est jamais vérifié. Donc, on peut parfaitement dire que la force de dissuasion française aujourd'hui est tellement robuste, elle est tellement puissante, qu'elle peut dissuader davantage que ce qu'elle dissuade aujourd'hui. Je reprends ce que disait Claudia Mayer, parce que c'est très éloquent. Claudia Mayer continue de dire que les Allemands ne comprennent toujours pas tout à fait ce qu'il leur est proposé. Et moi, je crois que c'est pour le moment et depuis longtemps une lacune française qui consiste à dire, et c'est une vieille histoire maintenant, que la dissuasion nucléaire a une dimension européenne. C'est un signalement stratégique qui est trop faible, beaucoup trop faible. Je note aussi que dans le discours au Bundestag de Friedrich Merz, le 13 mars, il y a deux jours, il a dit la chose suivante. Le mot « dissuasion », dit-il, « doit trouver dans les meilleurs délais une traduction militaire crédible » et immédiatement, il a ajouté que l'Allemagne doit être en capacité de se défendre. Donc, n'oublions pas, un, que la dissuasion est une fonction de la défense, ça fait partie de la défense, et que deux, la part conventionnelle de cette dissuasion est majeure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, authentiquement, génériquement, rappelez-vous, en latin, la dissuasion, c'est « si vis pacem, para bellum ». Par conséquent, la première mesure dissuasive, c'est effectivement de constituer une défense conventionnelle qui, pour le moment, manque encore aux gros piliers européens que sont en particulier l'Allemagne, la Pologne, mais surtout l'Allemagne. Et de ce point de vue, je crois que la mesure ou l'événement le plus significatif en termes de dissuasion européenne est cette cette décision prise par le parti écolo allemand d'accepter la modification de la loi fondamentale allemande qui ouvrirait la voie à une sortie par le haut de ce blocage parlementaire outre-Rhin. Le fondement de la dissuasion européenne, probablement, il est là. Ensuite, il y a effectivement, vous avez raison, un éventail de dispositifs qui existent et qui sont censés déjà protéger l'Europe depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on ne vient pas de nulle part. C'était le propos liminaire que je vous faisais tout à l'heure.
La dissuasion, on ne vient pas de nulle part. Et quel est le rôle du Royaume-Uni dans ce système, puisque c'est l'autre puissance nucléaire européenne? Le Royaume-Uni, à la différence de la France, fait partie de ce qu'on appelle le groupe des plans nucléaires au sein de l'OTAN. Ce n'est pas le cas de la France, évidemment. Néanmoins, quel peut être l'apport et la coordination franco-britannique en la matière?
Vous avez raison. Il y a deux choses importantes à prendre en compte s'agissant de la posture de dissuasion du Royaume-Uni. D'abord, on remarque que depuis deux semaines, par diverses voies, qu'elles soient officielles ou semi-officielles, il y a eu un certain nombre d'appels à se rapprocher de la France en matière de dissuasion nucléaire. Le porte-parole de Downing Street rappelle que la dissuasion nucléaire britannique est complètement indépendante d'un point de vue opérationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Premier ministre seul décide du déclenchement du feu nucléaire et les quatre sous-marins de classe Vanguard, puisque c'est eux qui constituent les seules plateformes de lancement de missiles nucléaires du pays, sont produits outre-Manche. En réalité, on sait aussi que les têtes sont conçues en collaboration avec les États-Unis, que les missiles mer-sol qui emportent les charges, c'est-à-dire les missiles Trident, sont fabriqués aux États-Unis, que la maintenance est américaine et que les essais se font sous contrôle américain. Et la nouvelle génération des sous-marins en construction, les Dreadnoughts, sont conçus pour être compatibles avec ces missiles Trident. Donc, non stricto sensu, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, d'une certaine manière, si vous me permettez l'expression. La force de dissuasion nucléaire britannique n'est pas indépendante. Et il y a deux accords cadres entre les alliés qui structurent, mais aussi qui garantissent cette dépendance. C'est l'accord de défense mutuelle de 1958 entre les deux pays. Il a été prorogé de manière indéfinie en novembre dernier. Et puis un autre accord de 1963, le Polaris Sales Agreement, quand les missiles étaient des missiles Polaris. Il y a une revue stratégique de défense qui doit être publiée dans les semaines à venir, là, qui est lancée depuis un peu plus d'un an. On verra comment la posture va évoluer, mais il est très probable que l'effort sera exclusivement sur les systèmes conventionnels dans le proche avenir. Et par ailleurs, sur un plan plus strictement technique cette fois, il y a une coopération bilatérale franco-britannique qui est très forte et qui est encadrée depuis 1992 par la commission conjointe nucléaire. Donc il y a un laboratoire commun, le laboratoire est pur au site de Valduc du CEA, une commission conjointe qui progresse toujours plus dans le sens de son renforcement, ce qui a été confirmé il y a deux ans au niveau de l'Élysée et de Downing Street. Donc il y a à l'évidence une intégration de plus en plus importante, mais vraiment sur le plan technico-opérationnel, des charges, de l'essai de la fiabilité des têtes, etc., entre les deux pays. Et les deux pays, vous le savez, sont réputés participer de la dissuasion nucléaire de l'OTAN, officiellement, depuis le sommet d'Ottawa de 1974. Et de ce point de vue-là, les deux sont à peu près sur la même ligne française et britannique. Nos forces conjointes participent de la dissuasion de l'Europe dans ce cadre otanien, avec une indépendance naturellement plus avérée.
Revenons brièvement, grâce à l'agence France-Presse, à la toute dernière déclaration du Premier ministre britannique, puisque je vous rappelle qu'a lieu en ce moment même une réunion de quelques 25 dirigeants alliés de l'Ukraine, dont évidemment Emmanuel Macron, et d'autres dirigeants européens et extra-européens, et donc le Premier ministre britannique a réaffirmé que tôt ou tard, je le cite, Vladimir Poutine devra venir à la table des négociations. Pour le moment, vu le décalage horaire, il n'y a évidemment pas de réaction de Washington. Les États-Unis, je le souligne, ne participant pas à cette réunion virtuelle organisée par Londres. Bruno Tertrais, on arrive à la conclusion extrêmement provisoire de cette discussion. Est-ce que on peut parier sur un renforcement de la détermination des pays européens pour accroître leur poids au sein même de l'OTAN, qui reste, il faut le souligner, il faut le rappeler, la seule organisation protectrice sur le plan conventionnel et sur le plan nucléaire de notre continent.
Ouais, trois points très rapidement pour compléter ce qui a été dit quand même sur la question nucléaire. Premièrement, je suis un peu surpris que mon ami Claudia Mayer ne dise « Les Allemands ne savent pas ce que proposent les Français ». Si, les Allemands savent exactement ce que proposent les Français. J'en ai encore parlé en privé avec des très hauts responsables allemands récemment. Les Français proposaient depuis 5 ans déjà, premièrement, il faut qu'on parle de la dissuasion. Deuxièmement, venez participer à nos exercices. La discussion a évolué depuis lors. Deuxième point, il n'est pas question de remplacer la dissuasion américaine tant qu'elle existera pour les Allemands, pour les Polonais, pour les Français. Ce qui est en discussion de manière très intense, je peux vous le dire en ce moment, c'est comment est-ce qu'on peut vous rassurer, comment est-ce qu'on peut compléter la dissuasion américaine tant qu'elle existera. Troisième point, là-dessus, c'est une évidence qu'il y a une jambe britannique avec une jambe française. Les Britanniques, comme ça a été dit, on parle énormément avec eux, on coopère de plus en plus avec eux, dans la mesure où ils ont encore aujourd'hui une force de dissuasion qui, certes, est très dépendante sur le plan industriel des États-Unis, mais qu'ils peuvent tirer de manière totalement autonome, ça, j'en suis absolument persuadé. C'est entre Français et Britanniques aussi que ça se discutera. C'est pour ça que cette discussion ne peut pas avoir lieu au sein de l'Union européenne, d'ailleurs. Il n'est pas question que ce soit l'Union européenne
bien
qui traite de la dissuasion nucléaire. Et donc, pour répondre à votre question, je dirais que la détermination est là. La question est de savoir jusqu'où on ira et à quelle vitesse. Mais vous avez raison de le rappeler, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que les Américains quittent l'OTAN ou alors se désinvestissent complètement de cette organisation, jusqu'à ce que Donald Trump fasse un tweet disant « c'est terminé, je ne protège plus l'Europe à partir d'aujourd'hui » et ça aurait déjà des effets politiques considérables, eh bien la défense de l'Europe face à la Russie, elle continuera à se faire au sein de l'OTAN.
Et cela veut dire, Bruno, qu'à partir du moment où la France se dit prête à envisager, je reprends la formulation du président de la République, à envisager la possibilité d'élargir sa protection nucléaire à des pays européens qui le demandent, cela veut dire que cette conversation-là va se poursuivre.
Non seulement elle se poursuit, mais je peux vous dire qu'elle s'est développée de manière extrêmement intense depuis quelques semaines et que plusieurs de nos alliés sont demandeurs et d'ailleurs le disent publiquement. Mais je le répète, il ne s'agit pas de faire une révolution stratégique complète, mais d'avancer de manière beaucoup plus forte et rapide dans un processus qui a lieu littéralement depuis 1962, puisque je rappelle que le Premier ministre Georges Pompidou disait à l'époque de manière très publique avec l'assentiment du général de Gaulle que par son existence propre, la force de dissuasion française protège déjà l'Europe dans les faits, ou du moins nos voisins. Toute la question clé, ça a été dit tout à l'heure, c'est de savoir, et là il faut qu'on y réfléchisse entre nous, comment est-ce qu'on pourrait éventuellement dissuader seuls Britanniques et Français la Russie de manière crédible aux yeux de Vladimir Poutine, parce que la dissuasion, c'est dans les yeux de l'adversaire que ça se joue, et c'est ça qui sera la question fondamentale. Et personne ne peut affirmer avoir la réponse ferme en disant, voilà, il faut 300 têtes nucléaires, il en faut 2000, il en faut 50. C'est un calcul politique qui se fait en fonction de ce que nous pensons pouvoir être nécessaire pour dissuader la Russie. C'est une discussion qui s'intensifie, qui va être en partie publique et en partie discrète. Ça ne sera pas une révolution stratégique, mais c'est quand même un vrai tournant dans la sécurité européenne qui est en train de se dessiner.
un tournant. Et je vous remercie tous les quatre, évidemment, de nous avoir éclairés sur sa complexité, ses multiples aspects. On aura bien évidemment l'occasion d'y revenir tous ensemble. Merci à vous, Claudia Mayor. Je signale que vous avez co-signé avec Aldo Kleman un document de travail en anglais pour l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité à Berlin, le SWP, que vous venez de quitter. Je vous félicite pour cette nomination donc au comité exécutif du German Marshall Fund. Amélie Zima, vous avez publié un excellent « Que sais-je » sur l'OTAN, réédité en 2003, et je signale aussi l'étude de l'IFRI, Pologne, première armée d'Europe en 2035, point d'interrogation, un papier que vous signez avec Léo Peria-Peigné pour l'IFRI. Bruno Tertrais, auteur prolifique, et entre autres, d'un très bon livre, La guerre des mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires, aux éditions Alpha, une nouvelle édition publié en janvier dernier. Benjamin Haute-Couverture, vous avez publié plusieurs tribunes sur l'OTAN et sur la défense européenne, que ce soit dans La Croix ou dans Le Monde. Voilà, à la réalisation ce matin, comme d'habitude, Luc-Jean Reynaud, Jean-Guilain Meige était à la technique, Laura Duterte-Perrier et la documentation de Radio France m'ont aidé à préparer cette émission. Et voici, nous sommes samedi, les carnets de santé de Marina Carrère-Dancausse. Bon week-end et à samedi prochain.